Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bon lundi, celui du 9 juin 2025. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Bonjour Louis.
Bonjour Hélène.
Et bonjour Daniel.
Bonjour.
C'est répétitif mon affaire, bonjour, 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 genre de rap de début de semaine. Mais j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette fin de semaine, même si on respirait quand même de l'air pas nécessairement sain. Surtout vendredi, samedi, dimanche, là, ça s'est amélioré à cause des feux dans l'ouest. Là. Il faut pas non plus se plaindre le ventre plein, parce qu'il y en a qui sont dans la misère beaucoup plus profonde que nous. Mais hier, on en profitait quand même pour mieux respirer, puis profiter de ce temps sans humidité. C'est assez extraordinaire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Est-ce que vous êtes des adeptes de la série Paul, les BD de Michel Rabagliati? Ça vous dit quelque chose?
Oui, tout à fait. Non, je ne regarde pas les séries, non.
Les BD... Livres.
À la BD, non, excusez, là. Non.
Non, OK. Ça a le mérite d'être clair. Mathieu?
Oui, je ne les ai pas toutes lues, mais oui, j'aime bien.
Oui. Et puis, Louis?
Moi, j'avais un colocataire qui s'appelait Paul et qui aimait beaucoup, qui était venu en partie pour
Est-ce
ça.
Est-ce qu'il s'identifiait à Paul?
Je pense un peu, oui. Paul à Québec.
Oui, Paul à Québec. Il y a Paul à la pêche, Paul dans le Nord. Et puis, Paul à la maison. Sa BD, il y en a encore plus, là, je ne les ai pas toutes nommées, mais Paul à la maison, c'est sûrement la BD la plus triste, mais aussi qui a de l'espoir, parce que c'est une BD qui est remplie de deuil, et on a porté cette bande dessinée à la scène, au théâtre. Il y aura une représentation, plus qu'une représentation, mais la première montréalaire aura lieu le 12 juin. Bien hâte de découvrir cette pièce sur la scène. Pardon, et c'est Anne-Marie Olivier qui signe l'adaptation de la BD de Michel Rabagliati. Et c'est Hugues Frenette qui est un comédien de Québec, mais qui est connu aussi à travers le Québec, puisqu'on l'a vu au théâtre à Montréal et aussi dans quelques téléséries, qui incarne Paul. Alors, j'en parlerai avec Anne-Marie Olivier en dernière portion d'émission. Et puis, on a nos chroniqueurs, vous les avez déjà entendus, nos collaborateurs du lundi qui sont là. Daniel, vous avez deux sujets pour nous.
Oui, j'ai deux sujets. Le premier, c'est que probablement des parents qui le vivent en ce moment, c'est que les enfants quittent le nid. Alors, comment survivre au nid qui se vide? Et le deuxième sujet, ça porte sur le regard, parce que le regard est, selon ce que je lis, beaucoup plus bavard qu'on ne croit.
Ah oui, quand on est attentif, là, il y a plein de choses qui se passent dans un regard.
Oui, j'adore, moi, la communication non-verbale, et le regard, ben c'est une belle façon. C'est une belle communication non-verbale qui en dit long.
En autant que le regard ne tue pas.
Ah!
Louis, alors vous, avec vos sujets insolites, est-ce que vous allez nous étonner encore ce matin?
Peut-être que oui. Si vous voyez bientôt, dans les jours qui viennent passer, des photos d'une maison sur la Lune, eh bien, ce ne sera pas l'intelligence artificielle, parce qu'une maison a été déposée la semaine dernière. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une petite maison, mais je vous expliquerai quelle était la nature de ce projet. Et puis, bien sur Terre, aux États-Unis, une histoire amusante d'un jeune homme qui est entré dans la vie active, de manière très active. Il a couru de sa cérémonie de diplôme jusqu'à son travail. Et voilà, il a récolté une grande somme d'argent parce qu'il a beaucoup aidé son employeur. Je vous raconterai sa journée un peu folle.
Merci beaucoup, Louis. Et on passe avec du Mike Lee en version solo. Et là-dessus, je vous souhaite un beau début de semaine.
Passa. qu'elle s'emballe. Un lendemain d'ayahuasca. C'était la heste, connais Siddhartha, la dernière flèche de mon cœur, quoi. On fait l'amour, on fait la gueule. Love bomb to pop skirt. Donne-moi mes fleurs pendant que je hurle.
Tout passe à la chanson de Mike Clay.
À la une de la presse plus, Los Angeles, coup de force pour la troisième journée et la troisième soirée des manifestants protestés contre les rafles de la police de l'immigration à Los Angeles et l'entrée en scène de la garde nationale imposée par Donald Trump contre l'avis des autorités locales n'a rien fait pour calmer le jeu. Bien au contraire, une chronique à ce sujet d'Yves Boisvert, un pas de plus vers l'autoritarisme. Ce qui occupe aussi tout le monde, c'est la grève à la STM. C'est un départ pour la grève. Ça va affecter beaucoup de gens. Ce lundi marque le premier jour de grève à la Société de transport de Montréal. La veille, des usagers rencontrés à la station de métro Radisson cherchaient encore des plans B pour leur déplacement, écrit Chloé Bourquin. Cette grève des employés d'entretien perturbera le service dans les autobus et dans le métro de Montréal ce lundi. Ça a déjà commencé. Dans les jours à venir, une première en 20 ans. La baisse de fréquence se fera surtout sentir du lundi 9 au mercredi 11 juin, alors qu'aucun métro et aucun autobus ne passera en dehors des heures de pointe. Les 12, 16 et 17 juin, la fréquence sera réduite de moitié en dehors des pointes. Également, à la une de la presse plus, réseau routier, faire du beau avec Tachereau. Est-ce que ça se peut, ça? Ça, c'est moi qui pose la question. Longueuil et Brossard veulent transformer le boulevard le plus laid du Québec. C'est pas la première fois qu'on a cette idée, en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. À la une du Devoir, Trump envoie la garde nationale à Los Angeles. Une photo nous montre un manifestant qui affronte une ligne de la garde nationale américaine au centre-ville de LA dimanche. Des centaines de militaires sont arrivés dans la ville californienne sur ordre de Donald Trump au troisième jour de manifestations parfois violentes contre la politique migratoire du républicain, un déploiement rare mené contre l'avis des autorités démocrates de l'État. Le président a promis que les militaires allaient rétablir l'ordre. Toujours à la une du Devoir, Défense nationale, la cible de 2 % sera atteinte en 2025. Le premier ministre Mark Carney et le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, doivent en faire l'annonce officielle lundi matin vers 10 heures. Sous la pression de ses alliés, le Canada a décidé d'accélérer son plan d'augmentation des dépenses militaires. Pendant trop longtemps, les gouvernements de tous bords ont laissé les dépenses de défense du Canada à l'abandon, rendant notre pays vulnérable, écrit le cabinet du premier ministre. Projet pilote pour doter les Autochtones de détecteurs de fumée. Les décès liés aux incendies sont beaucoup plus nombreux dans leur communauté. Frustration et déception, c'est ce que ressent le directeur du Conseil national autochtone de la sécurité incendie, Arnold Lazare, chaque fois qu'un incendie se déclenche dans une maison sans détecteur de fumée. Et dans les communautés autochtones, ça arrive souvent, trop souvent, regrette-t-il. Mais il espère que les choses changent enfin grâce à un nouveau programme de sensibilisation et de distribution de détecteurs de fumée à travers le pays. Et on parle évidemment de tennis après un duel épique. Carlos Alcaraz l'emporte à Roland-Garros. Carlos Alcaraz a conservé sa couronne à Roland-Garros en renversant dimanche le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Et puis, à la une du Journal de Montréal, pour terminer, on voit le visage de Trump. Trump qui envoie 2000 militaires contre des manifestants. Chaos en Californie. On parle aussi de la grève. Et a-t-on vraiment besoin d'Investissement Québec? C'est la chronique de Francis Gosselin.
Dormir dehors, une chanson de Daran et les chaises.
Survivre au nid qui se vide, c'est un texte de Sylvia Galipo. Daniel Rioux l'a lu pour nous et va aussi le partager avec vous.
Oui, ben écoutez, tout d'abord, je vais vous mentionner un livre qui sert à cet article. Après les enfants de Karine Glorieux, qui paraît chez Québec Amérique. Alors, survivre au nid qui se vide. Et d'ailleurs, on veut pas que les enfants dorment dehors, comme la chanson le dit. On vise à ce qu'ils aient un bon endroit pour eux. Mais il y a le syndrome du nid vide, parce que comme parents, on rêve tous du jour où nos enfants ou nos enfants quitteront peut-être un jour, quand, surtout quand ils sont mal commodes, taquins, où nos maisons seront enfin immaculées, nos soirées reposantes et nos matins reposés. Puis quand tranquillement les oisillons s'envolent, ben là, bonjour le vertige. Ben, l'autrice Karine Glorieux, elle est mère de trois enfants de plus en plus grands et a vécu cette situation-là récemment. Et donc, elle s'est posé la question, quoi donc? Ce vide soudain est ô combien chavirant à la suite du départ imprévu de son aîné. D'où l'idée, justement, d'écrire ce livre d'après, après les enfants. C'est une sorte de guide pratique qui vise à mieux cerner ce fameux syndrome du nid vide, histoire de se l'épargner. L'objectif, c'est de décortiquer cette étape curieusement moins discutée de la vie d'un parent, la planifier aussi et, bref, y survivre. Mieux, comme dirait la mère de Karine Glorieux, d'un joyeux lapsus révélateur, faire du nid vide un nid libre. L'essai, justement, d'une centaine de pages est truffé de témoignages de parents, d'analyses et de trucs d'experts, dont des psychologues, des sociologues, et elle inclut aussi des guides, des trucs de designers, ainsi que de sages paroles de jeunes, un pied hors du nid, un pied dedans. Ça se veut un peu la partie 2 du « Mieux vivre avec son enfant ». Probablement qu'il y a des auditeurs qui se souviennent de ce livre qui a paru, qu'on nous remettait quand on sortait de l'hôpital après avoir eu un enfant. Ça fait belle lurette de cela.
Et pour qu'on, toi.
parce qu'il nous préparait à vivre avec un nouvel être, un petit bébé, alors qu'on peut peut-être le lire maintenant plus tard, finalement. Alors, c'est d'ailleurs pour parler de ce livre « Mieux vivre avec son enfant », c'était la fameuse Bible de l'Institut national de santé publique du Québec qui nous l'offrait au moment de la naissance de nos enfants. Alors, son objectif, c'est vraiment d'écrire une sorte de mieux vivre sans son enfant. Ironise l'autrice. C'est une étude et il y a des études et statistiques à l'appui, mais avec un soupçon de légèreté. On ne va pas dans le drame ici. Mention spéciale au sous-titre qui donne bien le ton. Comment apprivoiser leur départ, le départ des enfants, sans, entre parenthèses, trop se lamenter. D'ailleurs, dans l'article, il y a une confidence de la journaliste Sylvia Galipeau qui mentionne qu'elle a croisé sur son chemin Karine Glorieux alors qu'elles étaient les enfants allaient à l'école au primaire. Et comme elle dit, on se retrouve aujourd'hui au même chapitre de la vie et que son propos de Karine Glorieux nous parle droit au cœur, justement. L'appartement est étrangement désert, mais ne peut-on s'empêcher de penser en y entrant pour la première fois en 15 ans? Erreur, comprendra-t-on rapidement? Un vingtenaire dort encore en ce bel après-midi ensoleillé et sa fameuse aînée, partie deux ans plus tôt, ben, revenu au bercail. Ben, c'est aussi le lot d'un jeune adulte qu'on dit boomerang sur trois. C'est ce que disent les statistiques. T'es censé être parti, dira en riant sa mère en la voyant débarquer à point nommé au beau milieu de l'entretien qu'elle avait avec Sylvia Galipeau. Mais là, on revient dans l'article à nos moutons et ou plutôt, comme dit Sylvia Galipeau, comme l'écrit Sylvia Galipeau, à nos oisillons. Il faut savoir qu'après les enfants, qui a paru, je vous répète, chez Québec Amérique, Karine Glorieux, qu'on connaît pour ses romans adultes, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, À côté de la traque, Mademoiselle Tic-Tac, et aussi pour des romans jeunesse, dont Mutant, ose ici une première incursion dans l'univers de l'essai. Je trouvais intéressant de faire autre chose que de la fiction, dit-elle, et d'être dans le réel. Elle s'entretient donc avec quantité d'experts et glisse au passage quelques faits vécus, notamment son déluge de larmes en déposant sa fille devant son premier appartement. Oui, la mère en elle était fière, ben oui, son enfant volait de ses ailes, mais aussi déchiré, et je réalise que le temps, le fameux temps, a passé. On est toujours porté à penser au futur, mais quand les enfants s'en vont, tout à coup, on a un peu moins le goût de regarder vers ce futur. Hein? C'est ce que mentionne Karine Glorieux. D'autant plus que, contrairement à nos grands-mères, on a fait nos enfants tardivement, on en a fait moins, puis on s'implique énormément. Bonne nouvelle aussi pour les hyper-parents, les hyper-impliqués. Une étude conclut qu'ils ont de meilleures relations avec leurs grands-enfants que les générations moins impliquées qui les ont précédées. Et cela va avec ce que les parents m'ont dit. Une fois la transition faite, la communication qu'ils ont est meilleure avec l'enfant adulte qu'avec l'enfant quand il était à la maison. Dans le livre, outre la redéfinition de l'identité du parent, Karine Glorieux s'attaque au fameux vide ressenti. Après que l'enfant ait quitté la maison, ça fait apparaître des choses. Je réalise que mon travail n'est peut-être pas si intéressant que ça. Et ça peut être la même chose aussi dans la réalité qu'on découvre avec le couple. Mon couple, finalement, peut-être qu'on n'est plus si compatible comme couple. On était des parents, mais on est comme couple. Qui sommes-nous? Ceux qui s'en réjouissent n'osent pas le dire trop fort. Il y en a qui sont super heureux, confirme l'autrice, mais cela vient souvent avec une réserve ou de la culpabilité de l'afficher. À titre de comparaison, Karine Glorieux donne aussi la parole à des mères philippines, haïtiennes ou vénézuéliennes dans son livre, chez qui le nid a une autre symbolique et ne se vide pas forcément, du moins pas traditionnellement. Il y a aussi un chapitre complet qui s'attaque en outre à la question financière qui est assez actuelle et surtout en cette crise du logement. Est-ce qu'elle pose la question, est-ce qu'on a fait leur éducation à l'économie familiale? Est-ce qu'ils ont conscience de ce que cela va représenter financièrement de déménager comme ça, de quitter le nid? Et nous, les parents, que fait-on de tout cet espace dans l'appartement maintenant, maintenant qu'ils sont partis? Quel est le secret? Finalement, pour vivre cette transition plus gaiement, il y aurait se préparer, faire des pratiques sans sombrer dans la nostalgie, et puis se mettre à la place de nos enfants, toujours leur laisser savoir qu'on est là. Il y a les enfants boomerang, ceux qui partent et qui reviennent, et puis il y en a pas mal, qu'elle dit. Et pour combler le vide, comme elle le dit en riant, on écrit des livres. Alors, c'est peut-être plus rassurant, c'est plus agréable. Elle mentionne dans l'article, puis elle nous laisse aussi avec 4 conseils, il y aurait se réinventer après que le nid se soit vidé. Alors, recréer des traditions, comme par exemple préparer des mardis 5 à 7, faire des beignes le mercredi, le jeudi aller au cinéma, mais pas tous les soirs, comme elle dit, elle va sans dire. Mais ici ou là, pourquoi ne pas inventer de nouveaux rituels, incluant les enfants qui sont encore là? Communiquer aussi, ce sera le deuxième conseil, c'est garder la conversation ouverte avec les enfants, s'assurer qu'ils sont OK, qu'ils sont bien là, et leur rappeler que la porte de la maison familiale n'est pas fermée. Je ne vais peut-être pas encourager le boomerang, moi j'ajouterais. Et puis... Ça, c'est sûr.
Pas fermée, mais pas toujours ouverte.
Mais non, à un moment donné, il faut partir. Se modérer aussi dans les conseils, éviter d'être envahissant. Tu sais, maman est là. Ou encore, vous pouvez les inviter à manger, mais pas aller à leur porte, apporter de la soupe et des sauces à spaghetti à tout bout de champ, à l'improviste. Leur vie, leur choix, qu'ils vivent leur vie et leur choix. Et il y a aussi se réinventer. Il faut se rappeler qu'on n'est pas juste une mère ou un père.
Ça commence par se réinventer, ça se termine par se réinventer?
Se réinventer deux fois, elle dit deux fois, se réinventer bis. Il faut se rappeler qu'on n'est pas juste une mère ou un père. On a été des tas d'autres choses dans notre vie. Et puis, il faut laisser ces identités-là revivre.
Oui, il faudrait qu'elles vivent toujours, ces identités-là.
Oui.
Mais ça a l'air d'un bon livre. Après les enfants, par Karine Glorieux.
Glorieux, c'est oui. Ça. Puis, je vous dirais, moi, il y a quelque chose dans l'article quelqu'un me l'a déjà dit. Puis, déjà, même un jeune me l'a déjà dit aussi, c'est qu'on les voit, on mentionne enfants, il faut s'habituer à mettre dans la bouche des adultes. Tu sais, si on leur fait croire qu'ils sont des enfants tout le temps, on peut dire affectueusement, ce sont mes enfants parce qu'on les aime, mais dans la vie de tous les jours, il faut qu'ils deviennent des adultes.
Mais oui, les responsabiliser.
C'est ça, les responsabiliser.
Les rendre autonomes.
Les rendre autonomes aussi, puis aussi, je pense, au niveau de l'économie familiale, leur apprendre des rudiments de base, parce que on sait tous que parler d'argent, c'est un sujet bien ennuyant, mais...
Mais il y en a qui sont passionnés par ça, moi j'en connais. Oui. Et puis aussi, leur apprendre à faire des lessives, leur apprendre à cuisiner, leur apprendre à vivre seul, avoir leur appartement et qu'ils ne soient pas en train de toujours être au crochet de tout le monde. Là.
Non!
Et il y a le syndrome, bien, c'est le syndrome du nid vide. Là. On en parle notamment, je ne sais pas si vous avez vu la série animée par Élise Marquis qui vit cette réalité-là avec sa fille Alice.
Oui,
et ça s'intitule « Quand les enfants quittent le nid », j'ai tout regardé et j'ai bien apprécié. Tout.tv. Il me semble que notre génération connaissait plus ou moins ça, le nid vide, mais aujourd'hui, on en parle et de plus en plus.
Oui, puis ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est qu'on présente aussi que le livre s'adresse aussi à des personnes d'autres origines, elle mentionne. Puis pour eux, c'est pas une réalité pareille comme la nôtre aussi, hein? Moi, je me souviens avoir fait des animations auprès de nouveaux groupes, de groupes de multiculturels. Et quand on aborde, vous pouvez vous attendre, vous vivez à Montréal, votre enfant va aller étudier à Sherbrooke. Ah oui! Pour eux, c'est, on est prêt, c'est familial, c'est, la notion de famille est différente. Donc,
ils ne s'imaginent pas là, que l'enfant peut partir loin de la famille, des parents.
Oui, c'est en plein ça. Mais je dirais que nos jeunes adultes, hein, puis éviter, il y a un autre terme qui revient, c'est adolescent, hein. C'est éviter d'entretenir un adulte, adolescent, adolescent.
Les fameux Tanguy, là.
Ah, les fameux Tanguy.
Comme dans le film.
Oui, on va les amener chez Tanguy, s'acheter des meubles à la place, qu'ils deviennent des Tanguy à la place. Mais non, mais je pense que c'est une bonne chose de... En tout cas, moi, je pense que c'est un beau service à leur rendre. Moi, je me souviens de l'avoir fait pour mon fils. Et puis, à un moment donné, il collait à la maison, puis j'ai dit, il faut que tu t'en ailles. Il est parti. On était une semaine.
C'est vous qui l'avez mis à part.
Ah, oui. Puis,
il y a le syndrome du nid vide, puis il y a le syndrome du nid qui se vide pas.
Qui se vide pas. Puis là, je lui ai offert la porte. Et on était une semaine sans se parler. Et encore aujourd'hui, 12 ans plus tard, il me remercie.
Il
ne
vous parle plus?
Non, il me parle, parle. 11 ans plus tard, il me remercie encore. Et c'était le coup de pied au derrière qu'il me fallait pour me
Oui,
ce
n'est pas toujours facile hein, quand on est logé, blanchi, nourri, puis qu'on aime les gens avec qui on vit.
Oui.
Mais Daniel, merci pour ce beau sujet, « Survivre au nid qui se vide », un livre et aussi un article de Sylvia Galipeau dans la presse Plus. Et au retour de la prochaine demi-heure, nous aurons une chanson de Marie-Pierre Arthur, tiré de son plus récent album. Et Daniel, vous serez là pour nous parler de regard. Le regard qui peut en dire beaucoup.
Beaucoup.
À plus.
À plus.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Pourquoi je me perds?
L'autre atmosphère, une chanson de Marie-Pierre Arthur.
Oui, c'est plutôt l'autre hémisphère.
Oui, voilà, c'est ce que je me suis rendu compte en le lisant.
Alors, allons-y donc avec le regard. Le regard beaucoup plus bavard qu'on ne le croit, Daniel.
Oui, c'est le titre de cet article qui a paru dans un dossier du magazine Ça m'intéresse et c'est en novembre 2024. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. On peut parler du regard qui est des micro-mouvements des yeux, hein, où les variations de la pupille nous donnent des indices qui permettent de déceler l'attrait, hein, l'ennui, la réflexion, puis même le mensonge. Parce que le regard est au cœur de nos échanges avec autrui. Les yeux nous apportent des informations essentielles sur l'interlocuteur. Ils parviennent à notre cerveau et modifient notre attitude sans même que nous en ayons conscience, toutes ces informations. Et c'est ce que Mariska Krete, qui est psychologue cognitive à l'Université de Leiden, aux Pays-Bas, et qui est aussi spécialiste des émotions. Je vous parle de la pupille. Premièrement, la taille de la pupille, elle est révélatrice d'émotions. Ce rond noir au centre de l'iris change de diamètre en fonction de la lumière, mais pas seulement cela. Sa taille est aussi révélatrice du niveau d'éveil et d'émotion. Plus on est intéressé, attiré ou ému par son interlocuteur, plus elle est dilatée. A contrario, une pupille qui est rétractée peut indiquer de l'ennui ou de la fatigue. Une bille dilatée est souvent associée à des émotions positives même, pas positives même, mais positives tout simplement, comme la joie. Et d'ailleurs, vous allez sûrement voir y penser, pas étonnant aussi qu'on puisse imaginer le personnage Bambi et la plupart des héros de Walt Disney qui ont été dessinés avec de très grandes prunelles,
oui.
Justement pour susciter de l'attachement et de la confiance. Alors, il y a un autre résultat qui est plus surprenant encore, c'est quand on se trouve face à une personne aux pupilles dilatées, les nôtres aussi ont tendance à s'agrandir et on se demande pour quelle raison. Ben, c'est comme bâiller face à un bailleur.
C'est contagieux.
Ouais, c'est contagieux. Elle est à la base de nos interactions sociales et de l'empathie. Là, on parle aussi des clignements des yeux, hein, ou un détecteur de mensonges. Alors, la pupille n'est pas le seul élément digne d'intérêt. Les micro-mouvements autour des yeux, la position des sourcils ou encore les clignements nous donnent également des indices sur l'état émotionnel de la personne qui est en face de nous. Ainsi, la vitesse de clignement des yeux pourrait nous mettre sur la piste d'un mensonge. Contrairement à une idée reçue, le menteur n'a pas le regard fuyant. Quand il s'exprime, il fixe au contraire son interlocuteur afin de vérifier sa réaction. Une fois qu'il a terminé de parler, on peut remarquer un clignement répété des yeux. Ça, c'est le signe d'une décharge émotionnelle qui vient clore la séquence. Cette déduction empirique relève, on dit, de la synergologie. C'est l'observation des gestes, postures et mimiques des individus. Ainsi, ben, par contre, la synergologie, c'est pas scientifique. Bon.
Faut en prendre et en laisser, quoi.
Faut en prendre et en laisser. Mais on dit dans l'article qu'il n'est pas possible de définir avec certitude les signes du mensonge, qui sont trop variables d'une personne à l'autre. Et on dit même que certains menteurs sont tellement bien entraînés qu'ils contrôlent l'ensemble de leurs gestuels.
Ils ont pratiqué.
C'est des spécialistes dans le domaine. Il y a la direction, la troisième partie qu'on mentionne dans ce dossier, la direction du regard au cœur de nos interactions. Vous savez, l'expression « regarde-moi quand je te parle ».
Ouais.
Éviter le contact visuel avec quelqu'un qui peut révéler un problème d'interaction avec cette personne, voire le ressenti d'émotions négatives en sa présence. Des expériences en neuropsychologie ont confirmé le rôle clé des contacts visuels dans les relations humaines, et ceci dès le plus jeune âge. Quand un bébé vient au monde, les premiers échanges de regards sont en effet essentiels pour permettre l'attachement entre lui et sa mère. Âgé aussi de quelques mois seulement, l'enfant va fixer plus longtemps une personne qui l'observe que quelqu'un qui regarde ailleurs. Au-delà des interactions, ben, l'endroit où nous posons nos yeux pourrait livrer d'autres indices. Alors, si on regarde vers le haut, c'est souvent associé à la réflexion. et à la recherche d'informations. Si on a tendance à regarder vers le bas, quand on est dans l'introspection, puis quand, si on regarde vers la gauche, lorsqu'on essaie de retrouver un élément du passé, et on dit que si on regarde vers la droite, c'est que l'on se projette dans le futur. Mais les preuves scientifiques manquent, évidemment, et observer l'ensemble des expressions et gestes de son interlocuteur, ses yeux, aussi sa bouche, ses mains, sa posture, nous renseigne plus finement sur son état d'esprit et ses intentions. Je dirais en terminant que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans cet article. Il y a des exercices oculaires pour soigner les traumatismes. Et c'est parent de l'hypnose. C'est une technique qui s'appelle EMDR, c'est un sigle anglais. Ça consiste à réaliser des mouvements oculaires aux personnes victimes d'un événement douloureux afin de les libérer. Et le thérapeute commence par demander au patient de relater son expérience. Puis au cours du récit, il l'invite à effectuer des mouvements rapides des yeux, par exemple, en suivant un crayon, ce qui induirait des stimulations du cerveau qui favorisent un traitement plus approprié du souvenir. Et cette thérapie a été mise au point dans les années 80 aux États-Unis pour les vétérans de la guerre du Vietnam. Et selon une synthèse de 30 études, le taux de rémission a atteint 60 à 90% en 3 à 8 séances de 90 minutes. Et ça a été très efficace contre le stress post-traumatique et c'est aujourd'hui démontré.
C'est tout?
C'est tout. C'est drôle parce que, voyez-vous, c'est un texte qui a été écrit dans ce magazine. C'est drôle. Dans le magazine, ça m'intéresse, novembre 2024. Et je me souviens quand j'étais avec les nouveaux arrivants, avec une dame, des gens qui ne regardent pas dans les yeux. Parce que c'est l'autorité, on ne regarde pas son père dans les yeux, parce que c'est un signe d'arrogance. Alors, on voit que c'est un texte de magazine français, là, hein? Mais le regard...
Tout est culturel.
Beaucoup, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup voyagé physiquement, mais voyager dans des classes avec des gens, c'est vaste de voyager culturellement avec des gens. Alors le regard ici en parle beaucoup, et puis on pourrait regarder le volet culturel dans d'autres nationalités, d'autres cultures. Comment qu'on explique ça, le regard, là? Il y a peut-être d'autres signes, d'autres communications.
Oui, c'est vraiment riche de sens.
Ah oui.
Alors, t'as de beaux yeux, tu sais.
Oh my God!
ça vous rappelle quelque chose?
Ça me dit, well, mon Dieu, oui, c'est Jean Gabin qui dit ça, Michel Morgan.
Wow, quelle culture! Bonne semaine, Daniel, merci.
Bye.
Indochine, j'ai demandé à la lune.
Quelle belle chanson que vous connaissez par cœur, Louis de Bernice.
Oui, on aime toujours la fredonner, celle-là.
Oui, Louis, justement, vous nous parlez de lune, une maison qui a été déposée sur la lune.
Oui, c'est véridique. De nombreux entrepreneurs de ce monde, on en connaît certains, souhaitent rendre les astres habitables. Parfois, c'est la lune, parfois, c'est Mars. En tout cas, il y en a beaucoup qui rêvent un jour de mettre des colonies terrestres.
Fuir la Terre.
Exactement. Eh bien, en attendant l'élaboration de tels projets très compliqués, il est déjà possible de trouver, depuis quelques jours seulement, une maison sur notre satellite naturel, la Lune. C'est depuis jeudi 5 juin que c'est possible. Le projet Moonhouse, Maison Lune, de l'équipe de l'artiste suédois Mikael Jenberg, a en effet atterri jeudi vers 21h24, heure européenne, et a déposé sur la Lune une maison. Alors, on dit maison, mais c'est plutôt une maisonnette. C'est une toute petite maison, puisqu'elle mesure 12 cm sur 10 sur 8. Donc, vraiment petite.
Un jouet.
Mais bon, il s'agit là de la première et donc de la plus grande maison sur la Lune.
Oui.
C'est ce que raconte Mikael Jenberg, l'artiste de ce projet. Cela fait quand même 25 ans qu'il envisage une telle aventure avec deux autres camarades. Pour le réaliser, il a pu bénéficier des connaissances de l'astronome Emil Winterhave, qui a géré la partie technique. Et c'est aussi lui qui a associé Moonhouse à l'entreprise japonaise iSpace. La société s'est chargée d'embarquer la petite maison à bord de son alunisseur en janvier 2025, donc parti il y a quelques mois déjà, dans le cadre d'un voyage qui était prévu, dans tous les cas, à des fins commerciales. Et l'une de ces fins a donc été de déposer cette maisonnette. Cette maisonnette a été déposée par un rover et est un peu particulière. Il fallait qu'elle soit légère, donc on a utilisé un métal très spécifique. Les murs font 1 mm d'épaisseur, donc pas sûr que l'on soit totalement à l'abri à l'intérieur. Fabriquée avec une imprimante 3D, elle est capable de résister à l'atterrissage et puis surtout aux variations de température extrêmes auxquelles la Lune est soumise. On sait que dépendamment si sa face est tournée vers la Terre ou le Soleil, ça peut être des températures extrêmement chaudes ou extrêmement froides selon l'heure qu'il est. De cette manière, selon l'astronome, elle serait capable de survivre tant qu'un astéroïde ne la touche pas et donc de rester posée là sur le sol de la Lune. Mais alors, pourquoi se donner autant de mal, faire autant d'années de préparation déposer une petite maison sur la Lune? Eh bien, pour l'imagination et l'espoir, d'après Mikael Jenberg, l'artiste. Disons qu'une maison est un endroit tangible. S'il y en a une sur la Lune, on peut s'y voir, on peut s'y imaginer.
Se projeter.
Exactement. Et je pense qu'avec tout ce qu'il se passe dans le monde actuellement, on a besoin de s'imaginer ailleurs, particulièrement les enfants, a-t-il
de
commenté.
De partir dans la Lune.
Exact. Il n'y a jamais eu autant besoin d'une maison sur la Lune qu'en ce moment, a-t-il dit. Et donc si, dans les jours qui viennent, semaines qui viennent, vous voyez passer ici et là des photos d'une maison sur la Lune, ça n'est pas l'intelligence artificielle, c'est vraiment qu'il y a
est-elle
une petite
maison.
Est-elle
jolie, la maison ?
Alors, elle est jolie, c'est comme une ferme à la campagne. C'est une petite ferme typique de la campagne suédoise.
Oh.
Et ce qui est amusant, en fait, c'est que comme il n'y a rien autour, aucune autre maison, aucune ville, on ne se rend pas bien compte des proportions et on imagine vraiment que c'est une maison taille normale. Et il y a des photos où on la voit avec la terre en arrière-plan, loin, loin derrière. Et c'est vrai que c'est une vision tout à fait étonnante.
Une maison de conte de fées, un peu.
Et c'est ça, une vision étonnante. On ne souhaite pas forcément qu'il y en ait plein des vraies maisons un jour,
non,
mais en attendant, cette image est un je ne sais quoi de poétique, il faut le reconnaître. Et puis, elle est toute petite.
Après le poisson lune, la maison lune.
Exact.
Maintenant, vous nous parlez d'un diplômé qui a un drôle de destin, finalement.
Oui, qui a une journée très occupée et dont le destin va basculer parce que tout ça s'est passé le jour de sa graduation et vous allez voir, il a gagné également une grande somme d'argent. Tout part de Michael Baker, c'est son nom. Il se souviendra probablement très longtemps de sa remise de diplôme. C'était il y a quelques semaines, le 21 mai. Ce soir-là, il est allé récupérer son diplôme avec tous ses camarades. Et la soirée aurait pu s'arrêter là, mais pas vraiment. Il est allé à l'endroit où il est employé. Il travaille aussi les soirs, les fins de semaine, puisqu'il a 18 ans. Il se présente dans le restaurant Burger King où il travaille, pour ne pas le nommer. C'est près d'Atlanta, aux États-Unis. où il travaille, et il arrive sur place encore vêtu de sa tenue de cérémonie parce qu'il voulait montrer bien son diplôme à ses collègues, tout fier. Mais à peine entré dans l'établissement, il voit les autres employés en difficulté, débordés par l'affluence, le nombre de clients très important. Ni une ni deux, sans réfléchir, toujours habillé de sa tenue d'apparat, il se précipite en cuisine derrière les fourneaux. Il met des gants quand même hein, pour que tout ça soit hygiénique. Mais il donne donc un sérieux coup de main à ses camarades.
Il flippe des burgers en smoking.
Exactement. Il a une belle chemise blanche. Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a une partie de la toge. Enfin, oui, vraiment, on comprend qu'il sort d'une cérémonie de diplôme. Hein. Et son uniforme peu conventionnel n'échappe pas à une cliente, Maria Mendoza, qui vient elle-même de quitter la même cérémonie de remise de diplôme avec sa fille. Elle est alors touchée par cette vision, par le dévouement de Michael Baker, et elle filme une courte vidéo de cette vision inattendue qu'elle poste sur TikTok. Résultat, la vidéo devient rapidement virale, 4,4 millions de vues en quelques heures seulement.
L'avez-vous regardé ?
J'ai seulement vu des captures d'écran où on comprend bien ce qui est en train de se passer. Sa fille, qui est présente dans la voiture, lui a alors suggéré « Maman, pourquoi est-ce que tu ne créerais pas une cagnotte sur une plateforme pour récolter des dons ?» Parce qu'elle s'imagine qu'il a couru à son travail juste après le diplôme. C'est ce qu'elle a fait. La cagnotte grimpe et s'emballe, cela arrive parfois. Elle a atteint, tenez-vous bien, près de 200 000 dollars américains, cette cagnotte. Pour récompenser le dévouement de cet employé. 200 000 dollars auxquels s'est ajouté également une bourse de Burger King qui a voulu souligner aussi l'événement, rajouter 10 000 dollars pour lui permettre...
On ne peut pas aider un peu.
Non. Michael Baker, qui envisageait de prendre une année sabbatique après ce diplôme en raison de contraintes financières, a déclaré que ce soutien massif changeait complètement ses plans et ses perspectives. Il espère désormais commencer des études à l'université de technologie automobile dès cet automne. Mais ce n'est pas tout. Pour saluer la générosité de Maria Mendoza qui a tourné cette vidéo, la fondation Burger King a également décidé de verser une bourse à sa fille de 10 000 dollars. Voilà, comme ça tout le monde est content et Burger King est content aussi de se faire une bonne pub au passage.
Et oui.
Il souligne, ce qui est vrai, qu'ils ont un programme pour encourager leurs jeunes employés et ils ont attribué des bourses ainsi à pas moins de 116 étudiants déjà cette année. Donc voilà un petit événement qui souligne que...
Événement devenu grand. Conclusion, la bonté, ça peut être payant.
Exactement.
Et changer des vies. Merci Louis.
Avec plaisir.
Thank you.
La chanson Chicat de Canon.
La qualité de l'air s'était améliorée dans la plupart des régions du Québec hier, seuls quelques secteurs du nord de la province demeurant sous un bulletin spécial d'Environnement Canada. La mauvaise qualité de l'air causée par la fumée provenant des feux de forêt dans les prairies persiste toutefois dans plusieurs provinces. Des avertissements ou des bulletins spéciaux d'Environnement Canada sont maintenus dans certaines régions de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, de la Saskatchewan et des territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs accepté une demande d'aide formulée par l'Ontario pour faire face aux feux qui se propagent rapidement dans le Nord-Ouest de la province, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre Mark Carney dimanche. Nous avons déployé des avions et du personnel des Forces armées canadiennes pour contribuer aux évacuations aériennes d'urgence autour de la Première Nation de Sandy Lake, a-t-il précisé sur le réseau X. Merci d'écouter.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des fous, la rue était pleine de soleil, j'ai pris le train de 7h20. Descendu dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. J'entends des quoi dans son âme, je me sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi prendre venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Une fois, laisse-moi pas tranquille, des quoi je vais plus m'en aller. Descendu dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. Je suis tombé comme un orage en plein été des Indiens. J'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour. J'ai eu le goût de le déchirer. We'll be right back.
connais pas par leur nom, va m'asseoir sans dire un mot. À l'heure où les gens s'éveillent, je suis monté jusque dans le bois pour me laver les oreilles en écoutant le big bois.
Une chanson de Beau Dommage.
Grand classique. Du 12 au 22 juin, Ducep présente la pièce Paul à la maison, adaptée de la bande dessinée de Michel Rabagliati, dans le cadre de la série En rappel, une pièce qui a été créée à l'automne 2024 au Trident, à Québec. Et j'ai le plaisir d'en parler avec celle qui a adapté la BD de Rabagliati pour la scène, Anne-Marie Olivier, autrice, metteuse en scène, comédienne, adaptatrice. Maintenant, bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a d'ailleurs déjà invité ici. Vous étiez en studio la dernière fois.
Oui, c'est toujours un plaisir.
Mais je suis contente. Vous nous aviez parlé de votre pièce Maurice, extraordinaire pièce Maurice. Est-ce que c'est terminé pour Maurice?
Ça s'est terminé avant-hier.
Pas vrai.
Après 89 représentations.
Ah, est-ce que vous allez vous rendre jusqu'à 90 ou c'est vraiment fini?
Ben, en fait, au Québec, le marché de la diffusion, ça dépend beaucoup du désir des autres.
Oui.
Donc, ça va dépendre si on a des offres, mais on est déjà bien content. Puis d'en parler avec vous, c'était vraiment chouette la dernière fois.
Ah oui.
Ouais,
ben, en tout cas, j'espère que le plus de monde verra cette pièce, qu'il y ait une suite, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, on se concentre sur Paul à la maison, Anne-Marie. Est-ce que c'est vous qui avez imaginé une BD de Rabagliati sur une scène?
Non, c'est vraiment le directeur artistique Olivier Artaud, puis il a suggéré Paul à Québec à Michel Rabagliati, qui lui a contre-suggéré Paul à la maison.
C'est ah, d'accord.
Passé.
Ouais. Oui, parce que Paul à Québec a été porté au grand écran et Paul à la maison, pour lui, quoi, avait plus de potentiel théâtral? C'était quoi la raison?
Je pense que c'est une raison d'intimité. Aussi de Michel Rabagliati, il lit beaucoup de romans, il va beaucoup au théâtre, il est dans une chorale.
Oui.
On le voit aussi quand on est des fans de son œuvre, on pressent ces choses-là. Fait que c'est ça. On a essayé vraiment de répondre à ses requêtes, d'être proche de son œuvre, puis de vraiment de reconnaître beaucoup, beaucoup le livre. Fait que moi, si vous allez voir la pièce, vous n'allez pas voir mon travail. C'est une adaptation invisible.
Ah oui? Comment on fait ça, une adaptation invisible?
Ben, c'est beaucoup d'aller-retour avec le créateur. Donc là, grand bonheur de travailler avec Michel Rabagliati. Écouter aussi les désirs de la personne qui fait la mise en scène, puis déplacer des petites choses, puis déterminer un fil narratif. Puis ce qu'on a fait vraiment, c'est qu'on a privilégié l'histoire avec la mère. Puis c'était vraiment un grand bonheur, puis très aidant d'avoir Michel Rabagliati qui est venu à quelques reprises en répétition avec Marie-Ginette Gay, que vous connaissez probablement.
Il oui. a dit, ben, ouais, non, qui joue la mère.
Comme ci, comme ça, tu sais. Fait que, il a, avec quelques notes, Marie-Ginette a complètement changé son jeu. Ça a donné beaucoup de relief. Donc, on a travaillé ensemble. Gros travail d'équipe, gros travail sur scène. Lorraine Côté a fait beaucoup, beaucoup de boulot, là. La metteur en scène.
La metteur en scène.
C'est Hugues Frenette qui joue Paul avec beaucoup de précision, d'abandon.
De vérité.
Oui, effectivement.
Mais je me demandais justement, Anne-Marie, est-ce que Hugues Frenette a été choisi dans le cadre d'une audition ou c'était comme naturel de le prendre? Parce qu'il y a François Letourneau qui avait joué Paul au cinéma.
Ben oui, puis on adore le jeu de François aussi, mais... C'est vraiment en discutant ensemble, Michel, Olivier et moi, on a parlé de Hugues à Michel, puis il est allé le voir en spectacle, il jouait un autre spectacle à Ducep à ce moment-là à Montréal, mm-hmm. puis il a dit oui, effectivement, ça fonctionne.
C'est lui.
Ouais.
Ça peut être lui en tout cas.
Oui, c'est ouais. ça.
Et qui entoure Hugues Frenette? Vous avez parlé de Marie-Ginette Gay qui joue la mère de Paul, sinon il y a d'autres acteurs-actrices?
Oui, vraiment, puis ils sont extraordinaires. Il y a Paul Fruteau de la Clos, Valérie Boutin, les acteurs de Québec, Nadia Girard et Daya. C'est des acteurs de Québec qu'on connaît pas beaucoup, mais qui sont super versatiles, puis ils font tout le reste. Donc, ils vont autant faire des patients à l'hôpital, des joggeurs, puis on voit, c'est le fun de voir leur versatilité. Puis Tonio, le voisin de Paul, et puis il y a aussi Étienne Dangeau qui joue Biscuit.
Non, le chien! Un humain qui joue un chien.
Oui, c'est ça. Il manipule une marionnette. Puis ça se passe bien parce que, comme on le sait, c'est assez gris, cet album-là de Michel Rabagliati, mais l'adaptation quand même, c'est sûr qu'on a le spleen, mais il y a aussi beaucoup de trucs rigolos. Puis pour nous, c'est important de garder Biscuit qui parle. Mm-hmm. Ça fait partie des choses qu'on peut faire au théâtre. Puis,
et dans la distribution, je pense qu'il faut aussi nommer Odile Gagné-Roy.
Absolument. Ouais. Elle est tellement lumineuse. Puis Odile est une superbe interprète. Et vraiment, elle amène tout le côté, quand on part du nid, que nos parents nous énervent juste assez, qu'on les aime tendrement en même temps. C'est vraiment, c'est très, 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 très beau ce qu'Odile fait, ouais.
Et ça a été joué donc au Trident, comme je le disais tantôt. La réception a été comment?
Ben, je vous dirais que moi, je m'attarde beaucoup à la réaction du public. T'sais, ce que je vais avoir, ce que je vais dire va paraître condescendant, mais c'est le contraire, c'est-à-dire le monde ordinaire. Le monde qui vient, qui peuvent reconnaître la BD, qui se retrouvent, mais qui le vivent d'une façon différente. T'sais, on voulait pas que les gens qui sont amateurs de la BD disent « Voyons, qu'est-ce que vous avez fait à mon Paul? » Parce que les gens sont tellement appropriés cette affaire-là. Oui. C'est comme s'ils faisaient partie de la famille. Fait que la réaction du monde ordinaire était super belle. Ouais, ouais.
Et comment les dessins de Rabagliati sont insérés dans la pièce?
En fait, le pari de Christian Fontaine qui a fait la scénographie, puis de Lorraine Côté qui fait la mise en scène, c'est que la scène devient un peu, il y a trois cases. Donc les cases racontent l'histoire, donc les cases sur scène aussi, et c'est des écrans de projection sur lesquels on va avoir tantôt des images, puis tantôt des dessins que Michel a fait particulièrement pour le spectacle.
Diriez-vous, Anne-Marie, que le deuil est le thème au cœur de la pièce Paul à la maison?
Oui, puis je trouve ça intéressant qu'on puisse aborder des thématiques sombres, mais pas en s'arrachant le cœur non plus.
Il y a toujours de l'humour dans l'univers de Rabagliati, de toute façon.
Oui, c'est ça, on se reconnaît, puis ça fait du bien parce que tu fais « OK, je suis pas toute seule à avoir des spleens ». Puis ces grands trucs-là, tu sais, quand on sent que cette langueur, tout ça, le cycle de la langueur, quand il se termine, quand la joie revient, quand le printemps revient, comme là, quand l'été revient, on l'a en nous, il est dans la nature, puis il y a un côté contemplatif au spectacle aussi qui raconte cette chose-là. Puis oui, des deuils, on en vit tous, des différents. Puis pour moi, c'est super important d'aborder ces thèmes-là parce que, c'est ça, on en a tout, hein, grandir, vieillir,
ouais.
Être en amour.
Les pertes.
Être en amitié,
ouais.
c'est ça fait partie du lot.
Et vous disiez que l'esprit de Paul, de la série de BD des Paul, est important à respecter pour que le public amateur des BD ne se sente pas perdu et soit aussi content là, du respect qu'on a eu envers l'œuvre de Rabagliati. Mais est-ce que les personnes qui connaissent pas du tout le personnage de Paul, qui ont jamais lu les bandes dessinées, par exemple, est-ce qu'ils pourront comprendre, apprécier l'œuvre?
Absolument. Puis ça, on l'a vu au Trident, là, dans la première série de représentations. C'est autant pour les fans que les gens qui l'ont jamais lu, tu sais. Puis qu'après, ils vont faire « Hein, je savais pas que ça leur donne le goût de découvrir des Paul. » Tu sais, on pensait que tout le monde connaissait Paul.
Ouais.
Mais encore, tu sais, un public qui était ravi de voir ça, puis que ça leur a donné aussi le goût de les découvrir. Mais c'est sûr que c'est plus Michel Rabagliati qui nous rend service, là, parce que c'est vraiment une grande vedette mondiale. Là.
Tout à fait.
Mais il reste quand même quelques personnes qui sont passées à côté de cette œuvre grandiose-là, qu'on est bien content de faire une toute petite part de ce côté-là.
Alors, comme il y a une série, est-ce qu'il va y avoir une série de BD, est-ce qu'il va y avoir une série de pièces de théâtre adaptées, donc, des BD de Rabagliati?
Je sais pas. Là, c'est sûr que moi, je suis pas à la direction artistique du Trident. Je crois qu'il y a d'autres projets, mais je sais pas avec quel BDiste. Puis, même si je le savais, malheureusement, je suis tenue au secret.
Bien
là,
oui.
C'est presque le KGB, là.
Bon, alors, on aura peut-être... ben, ça sera une raison de vous réinviter, qui sait? Même si vous n'êtes plus la directrice du Trident, mais vous avez d'autres projets. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment, maintenant que Maurice est fini, que vous avez adapté la pièce?
Ben, en fait, avec notre petite compagnie qui s'appelle le Théâtre Bienvenue aux Dames, on est vraiment de retour en cueillette d'histoire.
Ah.
Et là, on s'intéresse à toutes sortes de sujets, dont qu'est-ce qu'on transmet involontairement à nos enfants. Particulièrement dans des contextes où les gens ont vécu des conflits armés, ils ont déménagé, qu'est-ce qu'ils ont légué involontairement à leurs enfants? Comment reconnaître le pire? C'est sûr que là, l'actualité, malheureusement, nous dépasse, mais on travaille autant avec des gens qui nous livrent leur histoire que des spécialistes qui étudient ces choses-là, puis on découvre des choses, mon Dieu, il y a tellement d'histoires qui attendent d'être racontées, qui vont être racontées. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille, mais il y en a plein d'autres sur la féminité à travers les âges. Donc, quand on est une femme âgée, comment on peut s'affranchir de certains dogmes sociaux? Ça, c'est un autre projet. On a aussi un autre projet sur la fin de la vie où on va toujours passer par des cueillettes d'histoire. Donc, on va à la rencontre des gens comme un terrain entre la psycho, la socio, puis l'art. Fait qu'on se trouve bien chanceuse parce qu'on est surtout des filles de pouvoir travailler là-dessus.
Alors, les histoires sont pas en manque. Il n'y a pas de pénurie côté histoire.
Non.
Bien, ça a été un plaisir de vous reparler, Anne-Marie Olivier. Je rappelle que vous signez l'adaptation de Paul à la maison, pièce de théâtre qui sera reprise d'une certaine façon, en rappel, chez Duceppe à partir du 12 juin et ce jusqu'au 22, donc 10 jours pour en profiter. J'ai bien hâte de découvrir cette pièce. Je serai dans la salle jeudi. Merci, Anne-Marie.
Un grand merci. Bon été.
Bon été à vous aussi.
Sans trop le savoir, dans une autre vie, tu t'es clairement m'adulciné, mais le jeu de la misère. Parce que moi je suis rien, je suis moi que rien, mais c'est plus ou moins que quand tu l'embrasses, le temps s'efface. Tout d'un coup, il n'y a plus que nous, j'oublie tout de moi, tout est si simple dans tes bras. Si un jour tout d'un coup, il n'y a plus que nous. J'oublie tout de moi, tout est si simple dans tes bras. Te construis de tes mains un monde où mon cœur peut jouer comme un enfant. M'apprendras-tu à donner? J'ai jamais su. Come on.
Love Song numéro 1 d'Alex Leblanc.
Lancement de la nouvelle stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Ça a été publié par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale le 6 juin. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui s'est tenue du 1er au 7 juin, le gouvernement du Québec a lancé officiellement la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2025-2028. La stratégie propose 22 mesures aux actions gouvernementales existantes pour favoriser un marché du travail plus inclusif, 22 mesures complémentaires aux actions gouvernementales existantes pour favoriser un marché du travail plus inclusif. Parmi les mesures notables de cette nouvelle stratégie, 4 se démarquent particulièrement. La mesure 1, soit valoriser l'apport des personnes handicapées au marché du travail, favorisera le déploiement de moyens de communication efficaces et ciblés afin de mettre en valeur le rôle des personnes vivant avec un handicap comme travailleuses et travailleurs. La mesure 3, soit documenter le parcours des personnes handicapées vers l'emploi et leur participation au marché du travail. La mesure 6, déployer des continuums vers l'emploi et des activités socio-professionnelles et communautaires pour les personnes handicapées dans l'ensemble des régions du Québec. Et la mesure 18, bonifier l'accompagnement des milieux de travail lors de l'intégration en emploi de personnes handicapées, élargira le rôle des agents d'intégration afin qu'un soutien direct soit offert aux employeurs. Ce soutien inclura des conseils pratiques sur les tâches à confier, les modèles d'apprentissage à privilégier et la formulation des équipes de travail. Il s'agit d'une innovation majeure visant à favoriser la mise en place de milieux de travail véritablement inclusifs de la Commission des partenaires du marché du travail. En plus des sommes déjà allouées dans le cadre de programmes existants, des investissements de 45 millions de dollars sont prévus pour la mise en œuvre des mesures de la stratégie. Cette dernière repose sur les résultats de consultations menées auprès de plus de 400 parties prenantes, notamment des entreprises, des organismes représentant les personnes vivant avec un handicap et le comité consultatif des personnes handicapées. Autre par actualité, sur le site de Radio-Canada, qui a été aussi publié le 6 juin, en 2022, plus d'un tiers des Néo-Écossais vivaient avec ou plusieurs handicaps, soit le taux le plus élevé au pays selon les données de Statistique Canada. Ainsi, le gouvernement provincial cherche à améliorer le quotidien de cette importante proportion de la population en utilisant un outil unique en Amérique du Nord. La province va désormais utiliser l'indice de qualité de vie des personnes handicapées lancé au mois de janvier par la Ligue pour l'égalité des chances de la Nouvelle-Écosse. Cet indice évalue 82 indicateurs sur l'accessibilité et le bien-être dans une douzaine de domaines comme l'éducation, l'emploi ou encore de la sécurité sociale. Il y a un manque de compréhension sur la véritable signification de l'accessibilité, estime la directrice exécutive de la Ligue pour l'égalité des chances de la Nouvelle-Écosse, Sherry Costa-Lorenz, qui est elle-même handicapée. Selon elle, l'indice permet une approche systémique sur le bien-être des personnes, de leur naissance jusqu'à leur mort. Par ailleurs, une enquête doit être menée cet automne pour fournir un meilleur aperçu de l'expérience et du quotidien des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Écosse. La dernière enquête, qui remonte à 2019, comprenait plus de 200 questions sur des sujets comme la santé ou encore la solitude. Le prochain sondage, géré par l'organisme Engage Nova Scotia, sera envoyé à tous les ménages de la province. Davantage de questions seront aussi posées aux personnes handicapées, souligne le directeur d'Engage Nova Scotia. Cela nous donnera un aperçu plus précis des histoires à travers la province et des expériences des personnes qui ont différents handicaps, explique Danny Graham, qui est le directeur de l'organisme.
Pieds suis seul, moi. Moi, je suis seul, moi. Moi qui n'attends que toi. J'attends ton signal. J'attends.
La chanson « Signal » de Cri, accompagnée par Daniel Bélanger.
Vendredi, on apprenait avec stupéfaction et tristesse la mort de l'homme de théâtre Claude Poisson. Il s'est éteint des suites de complications cardiaques à l'âge de 69 ans, entouré de sa famille et de ses proches, selon le théâtre Denise Pelletier. Claude Poisson a porté plusieurs chapeaux en 50 ans de carrière, acteur, auteur, parolier, adaptateur, animateur, réalisateur, mais par-dessus tout, ce sont trois pôles distincts qui auront jalonné son parcours, la mise en scène, l'enseignement et la direction artistique, trois passions complémentaires qu'il aura déployées avec une fougue à nul autre pareil, peut-on lire dans la publication Facebook du Théâtre Denise Pelletier. Figure marquante du théâtre québécois, Claude Poisson a mis en scène un éventail, d'œuvres contemporaines. Il était dans le paysage théâtral depuis tellement d'années. Et même qu'il est retourné sur la scène le printemps dernier, il avait tenu le rôle de M. Bennett dans l'adaptation d'Orgueil et préjugés de Jane Austen par Rebecca Deraspe. Claude Poisson a été nommé directeur artistique du Théâtre Denise Pelletier en 2014, après avoir été co-directeur artistique du Théâtre Petit à Petit, le Théâtre PAP, qu'il a cofondé en 1978. Alors, nos condoléances à tous ses proches et à la grande famille théâtrale. À demain.